Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale que j'ai le plaisir d'animer sur Radio Présence chaque semaine. Lors de notre précédent numéro, je vous avais annoncé que la période des vacances scolaires de printemps était synonyme d'accalmie pour la plupart des saisons et des salles de concert. La semaine à venir s'annonce donc aussi calme que la précédente en termes d'actualité musicale, mais il y a tout de même quelques événements à vous annoncer, tâche à laquelle nous allons nous atteler avec mon ami Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Serge est toujours fidèle au poste pour accueillir avec moi l'invité d'honneur de cette émission, la violoniste Marie Cantagril, qui se produit le vendredi 26 avril à l'Odyssée, la salle de spectacle de Balma, en duo avec la pianiste Éloise Urbain. Un concert que nous allons vous présenter avec notre invité en seconde partie de ce numéro. Pour l'instant, nous allons revenir sur l'actualité musicale récente en compagnie de Serge Chauzy. C'est parti pour notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue Marie Cantagril, bienvenue Serge, ravi de vous retrouver Merci. Tous les deux dans le grand studio de Radio Présence. Le premier concert sur lequel nous allons revenir a eu lieu le 9 avril à Saint-Pierre-des-Cuisines et il a été donné par le quatuor Modigliani. C'était le dernier concert de la saison 23-24 des Arts Renaissants et il s'est déroulé, comme on pouvait s'y attendre, devant une salle archi-pleine. Je dois dire qu'on a vécu ce soir-là un moment de musique comme on a rarement l'occasion d'en vivre. L'émotion a été à son comble tout au long de la soirée. Il y avait vraiment une grâce particulière durant ce concert, Serge.
Absolument. On peut dire que pour leur dernier concert de leur saison, les Arts Renaissants avaient visé juste là. Vraiment, c'était un concert d'une beauté incroyable. L'un des plus beaux concerts, je dois dire, auxquels j'ai assisté. Avec non seulement une perfection instrumentale des quatre musiciens qui composent ce quatuor mythique maintenant, mais au-delà de la perfection technique, c'était surtout l'incarnation des œuvres qu'ils jouaient, avec une respiration commune, mais en même temps une diversité dans les sonorités. C'est vraiment unique, hein, c'est ce genre de combinaison.
Il y avait quelque chose d'irréel, moi, je trouvais, dans ce concert.
Oui, absolument, absolument. Alors, il faut peut-être rappeler quand même que le quatuor Modigliani, il est composé d'Amaury Coueto et Loïc Riault, les deux violons, Laurent Marfin, altiste, et François Kieffer, violoncelle. Donc, d'abord, ce qu'on admire, c'est les riches sonorités, que je qualifierais de sonorités de miel, en quelque sorte. Une douceur, d'une beauté, d'un impact important aussi. Et puis, un équilibre parfait entre les quatre voix. On entend absolument tout. Chaque voix a sa propre caractéristique. Et l'ensemble, c'est un but musical commun. On a l'impression que dans l'esprit, ils sont en communion constante, permanente. Donc, un très, 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 très beau concert. On ne le dira jamais assez.
Vous pouvez rappeler, bien sûr, les œuvres qui ont été
jouées. Oui. Alors, des œuvres assez diverses, puisque le concert s'ouvrait sur le quatuor à cordes numéro 3, dit « Mille années », composé par Mozart lorsqu'il était en Italie, au cours de son second séjour. Il avait 16 ans, alors une œuvre de jeunesse. Là, le caractère que les musiciens ont donné à ce quatuor, c'est à la fois une certaine grâce, ça coulait comme un ruisseau, mais en même temps, dans l'adagio, il y avait comme l'évocation d'un drame intérieur, d'une nostalgie très profonde. Vraiment, une interprétation attentive, profonde, belle, lumineuse de ce premier quatuor. Donc. Ensuite, une œuvre qu'on n'entend pas très souvent, de Hugo Wolf. Hugo Wolf, on le connaît surtout pour ses Lieder, et on n'entend pas souvent sa musique instrumentale. Et là, il s'agissait de sa sérénade italienne. Alors là, une œuvre parodique par moment, hein. On a l'impression qu'il imite un peu le style italien, lui qui était quand même germanique.
Et hein. Romantique germanique.
Ah oui, tout à fait. Là, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'interprétation, c'est la manière dont les musiciens ont souligné les harmonies qui sont subtiles, osées par moments. Hein. C'est une œuvre plus tardive que l'œuvre de Mozart, évidemment. C'est à la fin du siècle. Et donc, vraiment, un beau moment avec un caractère de danse aussi, en même temps qu'ils ont imprimé à cette œuvre. Et enfin, deuxième partie, alors vraiment l'œuvre majeure, hein, il faut le dire. Hein.
C'est, moi, c'est celle que j'attendais parce que Razoumovsky.
Ah, ben oui, c'est quelque chose. Et puis, c'était le numéro 1 de l'Opus 59, donc en Fa majeur, de Beethoven. Là, vraiment, c'est l'un des sommets expressifs de toute la musique de chambre. Composé en 1806, quand même, c'est contemporain de la symphonie héroïque. Hein. Les audaces qu'il a introduites dans la symphonie héroïque, elles se retrouvent dans ce quatuor à cordes. Et donc, c'est le premier des trois quatuors dédié au prince Razoumovsky, qui était ambassadeur de Russie à Vienne. Et donc, les musiciens là, s'engagent dans cette partition révolutionnaire, vraiment, avec un monde de nuances coordonnées, effarantes, incroyables, construites sur une sorte d'itinéraire éblouissant de cette partition. Évidemment, l'ouverture, ça va droit au cœur, avec ce solo de violoncelle incroyable pour l'allegro. Il y avait à la fois de la fièvre et de l'angoisse, avec un tempo soutenu, hein, ils l'ont abordé. Et puis tous les contrastes de l'allegro vivace qui suit. Et puis alors, le sommet, on peut dire, hein, l'adagio molti mesto des interprètes, là c'est un chant sublime et triste qui va droit au cœur. Là. Vraiment, il faut être de marbre pour ne pas avoir les larmes qui viennent aux yeux ou la gorge qui se serre. C'était d'une émotion incroyable.
C'est ça,
incroyable.
C'est la virtuosité au service de l'émotion, l'intensité et les nuances. Il y avait tout, oui, il y avait vraiment tout.
Complètement.
Et on a eu droit à deux bis, mais alors deux bis extraits de la même œuvre.
Oui, exactement. Mais il y avait quand même le mouvement final du quatuor de Beethoven avec cette espèce d'incandescence qu'ils lui ont imprimée, hein, une perfection, avec ce thème russe qui revient plusieurs fois. Et oui, alors, les deux bis, ils ont été tellement acclamés.
Mais je pense qu'il n'en avait prévu qu'un, et puis devant
l'assistance du public. Oui, et puis finalement, ils ont joué un second. C'était deux bis, deux mouvements successifs du quatuor numéro 4 de Schubert. Le tendre Schubert arrivé au bon moment après la magie beethovenienne, et donc ça a été aussi un grand moment qui a été salué, acclamé par le public. Hein.
Parmi le quatuor Modigliani, il y avait notre invité d'il y a deux semaines, Laurent Marfin, l'altiste, toulousain, ancien élève du conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Et dans la salle, il y avait son professeur, Domingo Mujica.
Et oui, qui était là, qui est allé les rejoindre après, à la fin du concert, oui, bien sûr.
J'ai pas de version d'une des pièces jouées le 9 avril à Saint-Pierre-des-Cuisines par le quatuor Modigliani à vous faire écouter, mais j'en ai une du fameux quatuor La jeune fille et la mort de Schubert. Et comme Schubert était présent finalement dans ce concert, on va écouter le deuxième mouvement de cette œuvre mythique, L'Andante con moto, par le quatuor Modigliani. Le deuxième mouvement, Andante con moto, du quatuor La jeune fille et la mort de Franz Schubert, dans une version du quatuor Modigliani, Notez que la prochaine saison des Arts Renaissants a été dévoilée. Vous pouvez d'ores et déjà la consulter sur le site www.arts-renaissants.fr. Samedi dernier, le 13 avril, c'est la Halle aux Grains qui était archi-comble pour le concert du duo Martha Argerich, Dong Yeklim. La grande pianiste argentine, qui aura bientôt 83 ans tout de même, était associée au pianiste sud-coréen pour cette soirée programmée par le cycle des grands interprètes. Devant un public, il est vrai, conquis d'avance, Serge va nous rappeler les œuvres et les compositeurs qui ont été joués ce soir-là. Et surtout, il va pouvoir nous faire part de ses impressions. Est-ce que vous avez aimé la prestation de ce duo ?
Oui, alors il faut préciser que depuis des années, Martha Argerich ne donne plus de récital seule.
Oui.
Elle est toujours accompagnée, mais ça c'est déjà ancien. Hein. Elle est très souvent venue à Toulouse avec Nelson Frère notamment, hélas maintenant disparu, avec le violoniste Guillaume Kremer ou le violoncelliste Micha Maïevski, on l'a vu chaque fois.
Ou avec des jeunes musiciens.
On
joue à quatre mains en général. Hein.
C'était le cas ici. C'est un tout jeune quadragénaire hein, que Dong Yeklim, pianiste vigoureux, au jeu vigoureux, hein, il faut dire. Hein, et donc dans une halle aux grains donc pleine à craquer, évidemment, avec un programme particulier puisqu'il associait Schubert, de nouveau Schubert, à Rachmaninov. Quand même deux tempéraments très différents, il faut le reconnaître. Et donc, les pièces alternées, il y avait des pièces piano à quatre mains, ça a été la première œuvre de Schubert, c'était un piano à quatre mains, et puis des pièces pour deux pianos, dans lesquelles, alors c'était amusant, les positions des deux pianistes alternaient.
Oui.
Un coup, Martha Argerich était à gauche, un coup, elle était à droite.
Ils ont joué d'abord sur un seul piano à quatre mains,
d'abord,
pour
la fantaisie en fa mineur, donc opus posthume hein, de Schubert, ça a été composé l'année même de sa mort, en 1828, donc. Et là, l'esprit avec lequel ils l'ont heureusement abordé, c'est l'esprit du voyage d'hiver, en quelque sorte, avec cette marche inexorable du Wanderer hein, que l'on retrouve, qui évolue alors de l'inquiétude vers le drame, et puis même vers la tragédie. Donc, un moment émouvant et profondément musical aussi. Et puis alors, bien éloigné de cet esprit, les deux pièces de Rachmaninov sont très différentes elles-mêmes entre elles, hein, donc, mais très différentes de la musique de Schubert. La suite numéro 2 qu'ils ont d'abord jouée, c'est une suite pour deux pianos, donc opus 17. Alors c'est une sorte pour Rachmaninov de thérapie pour combattre son échec lors de la création de sa première symphonie, qui a été vraiment un échec terrible pour lui. Et elle est contemporaine, cette suite du deuxième concerto, qui lui a permis de retrouver un peu sa créativité. Alors c'est une série de dialogues qui parfois évoque un combat entre les deux protagonistes, hein, avec les quatre volets bien différenciés. Et puis surtout, ce qui est impressionnant, c'est la tarentelle finale, qui prend là une dimension qui dépasse largement l'évocation d'une danse, puisque j'ai trouvé qu'il y avait là-dedans, dans leur interprétation, une certaine rage, même pendant les échanges entre les deux pianistes. Donc. Et puis toute la seconde partie est consacrée alors à une œuvre qu'on entend tantôt dans sa version symphonique, tantôt dans sa version pianistique. Ici, c'était la version pour deux pianos, encore une fois, des danses symphoniques, opus 45, l'une des toutes dernières œuvres de Rachmaninov, qui avait d'abord composé l'œuvre pour orchestre. D'ailleurs, elle était dédiée à Eugène Ormandy à l'Orchestre Philadelphie. Et donc, la version pour deux pianos, elle avait déjà été donnée à Piano Jacobin par Martha Argerich, c'était en septembre 2007, avec Nelson Frère, justement. Et donc là, on la retrouve avec ce bouillonnement, cette espèce de frénésie énergique qui éblouisse. Hein, par moment, avec ce premier mouvement, j'aime beaucoup le titre du mouvement, Non Allegro. Alors vraiment, il faut être
raccourci. Ça ressemble un peu à un gag, oui.
Oui, ça ressemble un peu. Et puis là ils ont joué le tempo di valse avec une espèce de caractère sarcastique un peu. C'était très intéressant. Et puis la section finale, alors là, l'Allegro vivace, c'était une explosion, hein, il faut le dire. Hein. C'était vraiment éblouissant. Et là, ça a soulevé le public, vraiment une ovation debout.
Ah oui, beaucoup de gens
sont mis
debout, je peux le confirmer.
Qui était ahuri de cette débauche de sonorité. Et bon, là aussi, on a eu droit à deux bis, hein, avec tout d'abord, alors pour calmer un peu la frénésie de Rachmaninov, le mouvement final de la sonate pour deux pianos, la Köchel 448 de Mozart. Alors là, c'était un sourire qui arrivait. Et puis, l'intervention finale, ça a été un choral du père Bach, mais transcrit pour piano à quatre mains par Györgyi Kurtág. Il a écrit cette transcription pour lui-même et son épouse, qui était pianiste aussi. Il est toujours vivant à 98 ans, hein,
Guy, oui,
Gheorghi
oui.
Courtag, ce qui est
certainement aujourd'hui pas loin d'être le doyen des musiciens en activité, oui. Qui l'ont été en tout cas,
je pense qu'il ne veut plus. Hein. Donc c'était un apaisement souriant et bienvenu.
Ouais, c'est un air de la cantate BWV 106 de Bach, je crois, dont le titre en français, on peut le traduire, je crois, par « Le temps de Dieu est le meilleur des temps ». C'était bien pour finir.
Ah oui, tout à fait.
Mais c'est vrai que c'était très apaisant, hein, la fin.
Absolument.
C'était inattendu. Moi, je ne m'attendais pas du tout à
un disque comme
celui-ci. Alors, effectivement, il y a eu ovation debout. Il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est qu'à bientôt 83 ans, on n'est jamais sûr, lorsqu'on voit Martha Argerich en concert, qu'on la reverra.
Mais
pour l'instant, elle tient encore très bien sa partie.
Ah oui, absolument.
Alors, ce qui est fou, on m'a dit, c'est qu'elle est toujours dévorée par le trac, encore aujourd'hui.
Ah bon ?
Avant de rentrer en scène.
Incroyable.
Et c'est aussi, je pense, pour ça qu'elle ne veut plus jouer seule.
Ah oui, c'est sûr.
Hein. Il faut la pousser un peu. Quoi. C'est assez curieux. Alors moi, j'étais moyennement convaincu par Daniel Klim. Je n'ai pas trop aimé son jeu, personnellement.
Ah, oui.
Il manque un peu de nuance, un peu mécanique. Et puis, il tapait quand même pas mal.
Oui, ça c'est vrai. Il était
alors, je me suis posé la question si c'était ma position dans la salle. Mais bon, après, ça a été un très, très beau concert. En tout cas, le public était ravi. C'est le moins qu'on puisse dire. On va avoir droit à un petit aperçu du programme qu'ont joué Martha Argerich et Daniel Klim à la Halle au Grain samedi dernier, un extrait des danses symphoniques de Serge Rachmaninoff, c'est la troisième danse. La troisième des danses symphoniques de Serge Rachmaninoff, jouée par Martha Argerich et Daniel Klim. Prochain concert des grands interprètes lundi 22 avril, très bientôt donc, à 20h, là à Halle au Grain, avec le pianiste turc Fazil Say. Nous allons vous le présenter en seconde partie d'émission, une petite pause, et l'on se retrouve avec Serge Chosy et Marie Cantagril pour la rubrique Agenda de ce numéro. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie, toujours en compagnie de Serge Chosy et donc avec la violoniste Marie Cantagril. que nous avions reçu dans cette émission il y a quelques mois, alors que vous alliez donner un concert avec votre quintette à Saint-Pierre-des-Cuisines. Cette fois-ci, c'est en duo à la salle L'Odyssée de Balma que vous vous produisez vendredi 26 avril à 20h. Duo que vous formez avec la pianiste Éloise Urbain. On connaît bien Toulouse, n'est-ce pas, Serge Chosy, puisqu'elle est professeure d'accompagnement, entre autres, au conservatoire et à l'ISDAT. À ce propos, petite curiosité de ma part, Marie Cantagril, comment vous êtes-vous rencontrées toutes les deux et depuis combien de temps jouez-vous ensemble ?
Depuis combien de temps ? Alors ça, c'est une bonne question, parce qu'on ne voit pas le temps, tellement le temps passer. Je pense que ça devait être 2016 ou 2017, peut-être 2016, allez. On s'est rencontrés par un ami commun, enfin un ami, mon compagnon, qui la connaissait très bien. Et chose, comme parfois il en arrive dans la vie, dans les chemins de vie qui s'entrelacent, Éloise a une maison de campagne qui est à une demi-heure, même pas 25 minutes, de la maison que j'ai réintégrée en Ariège depuis une dizaine d'années.
À mon retour,
Torignan-Vieux, s'il vous plaît. Parce qu'il y a aussi Torignan-Casse-Tête, hein, attention, il ne faut pas mélanger les deux.
Pardon, excusez-moi.
Qui était un petit village de 220 habitants, un peu plus maintenant peut-être. Et donc nous sommes à 25 minutes l'une de l'autre sur nos jolies routes de campagne. Et donc pour répéter, c'est très facile puisque Éloise se partage entre Toulouse et Belbès, puisque c'est sa commune. Elle passe 2-3 jours à Toulouse et 2-3 jours, même 4 jours à Belbès. Et donc pour répéter, j'étais encore avec elle hier, dimanche aussi également. On travaille la sonate à Kreutzer de Beethoven. On l'a déjà jouée, mais à chaque fois, c'est une redécouverte, un grand, grand chef-d'œuvre, qui, comme souvent, les chefs-d'œuvre ont été mal accueillis à sa sortie. Et ça me fait toujours un peu rire, parce que, enfin, un peu rire et puis en même temps un peu jaune, parce que c'est vrai que beaucoup d'artistes, beaucoup de compositeurs, beaucoup de chefs-d'œuvre n'ont pas été
reconnus
à leur juste valeur au moment où ils étaient, au moment où ils étaient là. Et ça fait partie, je pense, de leur vision des choses. Peut-être quand on est un peu en avant sur son temps, on a un peu plus de mal à se faire reconnaître, puisque là, j'ai une citation, moi, qui m'avait beaucoup choquée à l'époque. Le journal l'Allemagne Musikalische Zeitung considérait que Beethoven avait poussé le souci de l'originalité jusqu'au grotesque et qu'il se montrait adepte d'un terrorisme artistique. Et il s'agit aujourd'hui, vous le savez bien, d'une des sonates les plus populaires et les plus jouées du répertoire. Moi, en tout cas, c'est ma préférée. Je les aime toutes, les 10, mais c'est quand même ma préférée. Donc,
Alors, on va en reparler. Je voudrais qu'on reste pour l'instant sur votre complicité et votre collaboration avec Éloise Urbain, qui donc, si j'ai bien calculé, remonte à 7 ou 8 ans.
Oui.
Il y a eu un CD en plus enregistré.
Oui,
il y en a un. Et qu'est-ce qu'il y avait dessus ?
C'est un disque qui est très particulier, puisqu'on l'a appelé Ombre et Lumière. On l'a réalisé en plein confinement, à un moment donné où il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de concert, il y avait la peur au ventre de tout le monde. Donc 2020, on l'a sorti un petit peu plus tard, mais on l'a enregistré fin 2020, et on l'a appelé Ombre et Lumière. Alors après, ça reste quand même léger, c'est pas, on ne tombe pas, mais on explore des compositeurs qui se sont interrogés sur les forces de la nuit. Donc la danse macabre, on retrouve la fameuse, la célèbre danse macabre de Saint-Saëns, on retrouve la Ronde de Lutin, on retrouve le Tri du Diable, avec cette fameuse légende où Tartini aurait rêvé d'avoir le diable à ses côtés. Il a écrit une œuvre absolument extraordinaire, avec une cadence extraordinaire pour l'époque. Là, encore une fois, il était très en avance. Alors, est-ce que le diable lui avait soufflé cette sonate ? Et puis aussi, des œuvres très lumineuses avec Tchaïkovski, avec Wieniawski, le folklore, la joie de vivre, la virtuosité. Une pièce aussi contemporaine de Jason Mayer, qui est un compositeur américain, qui s'appelle Odessa. Et donc voilà, c'est un panaché un petit peu d'œuvres qu'on avait envie d'enregistrer toutes les deux et qu'on a réalisées en plein confinement. Et je me souviens encore de cette période où on se retrouvait, elle avait besoin d'une dérogation pour venir répéter. C'était une période vraiment très, très noire quand même, hein, avec beaucoup d'angoisse. Et nous, on travaillait et puis on était dans cette musique-là. Ça nous a aidés, ça nous a beaucoup aidés. Mais on n'est pas les seuls. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui se sont retranchés dans les enregistrements ou dans l'exploration. Finalement, c'est toujours ce que je me dis, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que c'est aussi une période où on est redescendu en introspection. Pourquoi on fait de la musique ? Le public nous manque, mais pourquoi ? Donc, c'est toujours, il y a toujours du positif à retirer de toutes les...
D'où ce titre,
toutes
Ombre
les épreuves.
Et Lumière.
D'où ce titre, exactement, Ombre et Lumière.
On va parler donc du programme de ce concert du 26 avril à l'Odyssée de Balma. On va commencer par cette sonate à Kreutzer. Et il faut rappeler, pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait, c'est la sonate numéro 9 de Beethoven. Pourquoi s'appelle-t-elle à Kreutzer ? Pourquoi est-elle devenue la sonate à Kreutzer ?
En fait, parce qu'il l'a dédicacée à Kreutzer. C'était son deuxième choix, puisque avant, il l'avait dédicacée à quelqu'un d'autre. Je ne me souviens plus de son nom parce qu'il est très compliqué. Serge ?
Kreutzer, il a même refusé.
Oui, Rohan même refusé ça, après. D'abord, il l'avait dédicacé à un de ses amis. Exactement. Et il l'avait créé avec lui. Donc Beethoven au piano. Et comment il s'appelait-il? Je ne me souviens plus. Oui, si, je l'ai.
Eh ben oui.
George Bridgetower.
Ah ben c'est pour ça que vous l'avez oublié.
Voilà, c'est pour ça. Mais je vous ai dit, c'est un nom très compliqué. Et donc, ils avaient créé tous les deux, donc Beethoven au piano et ce monsieur Bridgetower à Vienne, le 24 mai 1803. Mais à la suite d'une querelle, Beethoven aurait changé la dédicace qui serait finalement allée à Kreutzer, que le compositeur avait tenu en très haute estime. Comble de l'ironie, Kreutzer refusa de jouer la sonate qu'il considérait comme inintelligible pour le public.
Exactement,
je ne peux pas comprendre ça, mais il faut se remettre à l'époque. Et j'imagine qu'aujourd'hui, il y a des choses qui nous paraissent inintelligibles et qui, dans quelques temps, seront des choses extraordinaires.
Il faut se rappeler le scandale qui avait été le Sacre du Printemps. Voilà, ça remonte à un peu plus d'un siècle.
Péléas et Mélisande.
On peut en trouver beaucoup comme ça. Hein.
Oui.
Les œuvres qui ont fait scandale.
Probablement que les œuvres les plus marquantes du répertoire sont justement celles qui bousculaient les habitudes
Exactement.
De l'époque.
Exactement.
Et donc, voilà.
C'est pour ça que je suis toujours très prudente sur mes appréciations et mes jugements, parce qu'on juge toujours par rapport à une époque, par rapport à une mode, par rapport à des choses qui existent aujourd'hui. Et donc, je fais toujours très attention. J'évite de placer des étiquettes trop facilement.
Alors, cette sonate numéro 9 à Kreutzer, dont le prénom était Rodolphe, pour la petite histoire aussi. On va en écouter un petit extrait, là, avant de parler de la suite du programme du concert du 26 avril. Cet extrait de la sonate numéro 9 de Beethoven, la sonate à Kreutzer, est joué, bien sûr, par Marie Cantagril et Éloise Urbain. Extrait de la sonate numéro 9, la sonate à Kreutzer de Beethoven, jouée par Marie Cantagril, accompagnée au piano par Éloise Urbain. Alors, je voudrais quand même que vous nous disiez pourquoi cette œuvre, c'est celle que vous préférez parmi les sonates pour violon et piano. Pourquoi elle vous touche à ce point, en dehors du fait qu'elle est révolutionnaire pour l'époque?
Je les aime toutes les 10. Je me souviens même d'une époque où j'étais pas du tout bien et il n'y avait qu'une œuvre qui me faisait du bien, c'était la sonate numéro 10. Donc, vous voyez, je les aime vraiment toutes les 10. Mais je pense que c'est l'énergie. Il y a une énergie dans cette sonate qui est assez extraordinaire. Et puis, cette dualité entre la fraîcheur, la mélodie et puis cette espèce de frénésie rythmique. Bon, c'est pas pour rien qu'elle a quand même inspiré la fameuse sonate à Kreutzer de Tolstoï. C'est quand même une œuvre très inspirante. Donc, c'est ma préférée quand même. Bon, je les aime toutes les 10, mais c'est quand même ma préférée. Et je pense que c'est l'énergie. Oui, c'est l'énergie.
Et c'est une œuvre particulièrement difficile pour la violoniste ou le violoniste?
Oui, mais je pense que toutes les sonates de Beethoven sont difficiles. Je pense que Beethoven, Mozart, c'est très difficile pour les instruments à cordes, pour la justesse, pour le style aussi. C'est difficile d'arriver, mais c'est pas, enfin après c'est pareil pour beaucoup de compositeurs comme Bach. C'est difficile d'arriver à concilier un respect du style, parce que c'est écrit, qu'on sent la structure, on sent quand même la façon dont c'est construit, et en même temps d'y ajouter quelque chose de terriblement moderne et actuel, parce qu'on joue aujourd'hui, on est êtres de chair et de sang aujourd'hui. Donc moi, je me refuse à considérer les œuvres comme un exercice de style.
Alors donc, la Sonate Accrocheur doit ouvrir le concert, je pense, le 26, ça va être la première œuvre que vous allez jouer donc,
tout
avec
à fait,
Éloise
avec
Urbain.
Cette fameuse introduction au violon qui est absolument redoutable, on a beau la travailler, elle est absolument redoutable, et qui rappelle Bach hein, d'ailleurs. Qui rappelle Bach.
Votre cher Bach.
J'y pense à chaque fois, je pense à la chaconne et j'essaie de m'inspirer de cette énergie solo, parce que commencer comme ça, c'est pas facile.
Le reste du programme, alors là, c'est des compositeurs beaucoup moins connus du grand public que le père Beethoven.
Oui, surtout Henri Vieuxtemps qui n'est pas très connu du grand public, qui pourtant a été un virtuose extraordinaire.
Ah oui.
Extraordinaire.
Le maître d'Isaïe, c'était le maître
tout
de Jean Isaïe,
Vieuxtemps. Tout à fait, et qui a d'ailleurs laissé des traces, la fameuse école franco-belge, je pense que Vieuxtemps en est un des fondateurs. Et pourtant, il a travaillé à Moscou, il a travaillé avec des Russes aussi. Donc pour ça, c'est pas non plus facile de tout cataloguer. Mais en tout cas, c'était un virtuose, un enfant surdoué, un prodige du violon. D'ailleurs, on se demande peut-être, c'est peut-être pas pour ça qu'il n'est pas aussi connu qu'il le devrait en tant que compositeur, parce qu'il a tellement eu de succès en tant que virtuose que le compositeur reste un peu moins connu. Et pourtant, il a écrit des choses. Bon, il nous a quand même laissé 5 concertos pour violon qui sont joués et rejoués et rejoués. Malheureusement, pas tellement en concert, mais dans les concours, on y passe tous à un moment donné ou à un autre. Et cette petite pièce qui est tirée de 6 pièces de salon opus 22, qui s'appelle La Rêverie de Vieuxtemps, est une pièce magnifique. Moi, qui me touche beaucoup, que j'ai enregistrée d'ailleurs dans mon premier CD au décès de mon papa, j'étais toute jeune. Et elle est toute simple, harmoniquement, elle rappelle le bel canto, le chant, et je l'aime beaucoup. Donc cette rêverie, je suis heureuse de la partager, ou de la faire découvrir ou redécouvrir au public, et surtout de parler d'Henri Vieuxtemps, qui a laissé énormément de choses comme héritage aux violonistes, et dont on ne parle pas, je trouve, assez en France.
Et puis en plus, vous avez gagné le concours Vieuxtemps, si je ne me trompe pas, en Belgique.
J'étais lauréate.
Vous avez été lauréate du concours Vieuxtemps.
Oui, voilà.
Doublement, pour être attaché à ce compositeur.
Tout à fait.
Qui a la particularité de d'être en Belgique. Il était belge jusque-là, tout est normal, mais il est mort à Alger. Alors, je ne sais pas trop dans quelles circonstances, comment il est arrivé là-bas. Mort à Alger en 1881. Il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'il était ami avec Schumann tout de même, qu'il admirait énormément, qu'il le comparait même à Paganini. Hein.
Oui, tout à fait. Et il a eu aussi un grave problème de santé à un moment donné.
Oui.
Qui a marqué sa
je
vie.
Crois qu'il et a eu une attaque.
Et c'est pour ça qu'il
est paralysé. Voilà,
et c'est pour ça qu'après, il a encore plus composé. Mais moi qui fais mes études supérieures en Belgique, c'est vrai que j'ai une affinité particulière avec ce compositeur.
Alors, l'autre compositeur, là, on va descendre beaucoup plus au sud, c'est Pablo de Sarasate.
Oui.
Il faut nous le présenter aussi. Alors, il est connu évidemment des violonistes, parce que lui aussi était un virtuose de son temps.
Très grand virtuose.
Un peu postérieur à Vieuxtemps. Pourquoi vous avez mis une de ses pièces au programme? Laquelle, d'ailleurs?
Alors, ça, c'est une question de cœur, parce que c'était la pièce préférée de mon papa. Parce que mon papa adorait la musique, mais la musique populaire, en fait. Et souvent, d'ailleurs, ça correspond, puisque les grands chefs-d'œuvre qui restent et qui traversent les siècles sont souvent des œuvres où on retrouve du folklore, où on retrouve des thèmes populaires. Donc il adorait cette pièce depuis toute petite, il rêvait que je joue ça, et quand j'ai commencé à aborder ce genre de pièce, il était aux anges. Donc c'est avant tout une histoire de cœur. Après, c'est quand même un virtuose aussi pour les violonistes. Sarasate, c'est un virtuose incontournable, hein, il a beaucoup voyagé, lui aussi il a été très, très acclamé, très, très célèbre en tant que violoniste, et il a retiré de ses voyages et de ses tournées beaucoup de thèmes folkloriques. Et là, dans cette pièce, Les Airs Bohémiens, c'est des thèmes hongrois, des thèmes tziganes, qu'il a remis et qu'il a travaillé dans cette pièce. Et d'ailleurs, il avait marqué en marge de la partition qu'on ne pouvait pas expliquer comment il fallait le jouer. Donc c'est vraiment à la sensibilité du violoniste, et c'est vrai que c'est une pièce bourrée de virtuosité. Alors, troisième mouvement très rapide à la tzigane, très virtuose, très rapide, mais le premier mouvement est très difficile aussi parce qu'il y a beaucoup de petites finesses, ça va être comme un peu une improvisation finalement, et souvent c'est quand même très difficile. Ça a l'air très libre, mais pour que ça ait l'air très libre, c'est Stravinsky hein, qui disait « plus un art a l'air libre, plus il est travaillé ». Ben, on peut confirmer avec cette pièce de Sarasate.
Sarasate, dont une des œuvres sans doute peut-être la plus célèbre, même, c'est Carmen Fantasy, donc il s'inspire de thèmes utilisés dans l'opéra de Bizet, magnifique. Oui. Voilà, basque espagnol, mais mort à Biarritz. On va écouter, non pas Sarasate, mais on va vous écouter dans l'interprétation de la pièce d'Henri Vieuxtemps, parce que ça, je pense que vous y êtes très attaché. Donc cette rêverie pour violon et piano que vous jouez là, alors non pas avec Éloise Urbain, mais avec une pianiste qui s'appelle Véronique Bracco.
Thank you.
magnifique rêverie pour violon et piano d'Henri Vieuxtemps, joué par Marie Cantagril, accompagnée ici par la pianiste Véronique Bracco. Mais c'est donc avec Éloise Urbain que vous allez la donner lors de votre concert du vendredi 26 avril à 20h à l'Odyssée de Balma. Alors, la suite pour vous, c'est beaucoup de choses. Donc, je voulais qu'on parle de ce concert, bien sûr, mais vous êtes tellement actif que parfois, on ne s'est pas trop donné de la tête. Alors, il y a une saison dont vous êtes la directrice artistique à Saint-Lizier, tout près de chez vous, toujours, dans cette vallée du Salat que vous aimez beaucoup. Vous avez déjà donné un concert le 5 avril. C'était avec vos musiciens du quintet, avait vu il y a quelques mois à Saint-Pierre-des-Cuisines. La suite, qu'est-ce que ça va être?
Alors, c'est surtout avant, il y a le concours, parce que c'est vrai qu'on ne sait plus, même moi, je ne sais plus la chronologie.
Le concours, c'est au mois de juillet, je ne dis pas de bêtises.
C'est ça, oui, mais la saison est en août, donc en fait, c'est avant.
Ah, c'est vrai, vous avez
raison. Voilà. Non, mais je comprends, moi aussi, quelquefois.
Le concours international Marie-Cantagril.
Voilà, que j'ai créé en 2013 et qui rassemble chaque année en Ariège des jeunes du monde entier, surtout dans la dernière catégorie, parce que je rappelle qu'il y a 5 catégories, donc du débutant à excellence. Donc les 4 premières catégories rassemblent un petit peu des jeunes, des conservatoires français et puis Europe. On a eu un petit peu Japon, mais on va dire que c'est quand même principalement France et Europe. Et par contre, la grande catégorie, la catégorie excellence, nous avons, on a des jeunes vraiment, comme dans tous les grands concours internationaux. On a même des gens qui ont des prix Jacques Thibault, des prix Reine-Elisabeth, qui viennent à ce concours. Et c'est un concours qui va se dérouler, donc, comme chaque année, la première semaine de juillet, donc du 4 au 7 juillet, avec le concert des lauréats le 8, où chacun des premiers prix des 5 catégories vont se produire en soliste, du plus petit au plus grand, avec l'orchestre de mes musiciens. Donc, ça sera le 8. Depuis l'année dernière, ça se passe au Mas d'Asile, dans ce haut lieu de préhistoire.
Et là, vous écartez de votre vallée du Salat pour aller à la vallée de la Rive.
J'ai fait une petite infidélité, mais parce qu'il y a un tel cachet avec ces grottes, il y a un tel passé archéologique.
L'été en plus.
Voilà, l'été. Et puis, c'est dans l'esprit que j'aime, l'esprit d'une simplicité désarmante avec un niveau, très haut. Et c'est ce mélange qui est cher à mon cœur, comme le mélange des petits avec les grands. Les petits voient les grands et des étoiles dans les yeux. Les grands se retournent et voient les petits et se rappellent du chemin parcouru, ça peut être utile en cas de coup de mou, comme souvent on peut en avoir dans ce métier. Donc c'est un mélange que j'aime beaucoup et qui continue chaque année.
Donc les épreuves du 4 au 7 juillet à la mairie du Mas d'Asile et le concert des lauréats le lundi 8 juillet, c'est à l'église du Mas d'Asile. Et il y a aussi, pour ceux qui aiment les beaux instruments, il y a une expo de lutherie archeterie.
Tout à fait, il y a mes amis qui sont présents depuis le début de ce concours, c'est-à-dire 2013, ça fait 11 ans maintenant, c'est la 12e édition parce qu'il y a eu celle du Covid qui a été annulée, mais ça fait 11 ans qu'on a lancé ce concours et je dois les remercier. Et puis aussi personnellement, parce que la lutherie moderne a fait de tels progrès aujourd'hui qu'il est possible de trouver des instruments à des coûts presque ridicules comparés à d'anciens instruments et qui sont même presque plus fonctionnels que d'anciens instruments et qui sont absolument merveilleux. Donc ça, je les remercie tous, archetiers et luthiers, de venir à ce concours pendant 4 jours faire une expo où en fait on peut essayer des archets, on peut essayer des violons qui la plupart du temps viennent juste d'être faits, d'être finis, et on peut avoir un échange avec le luthier qui a créé le violon, et c'est vraiment des coûts très abordables.
Alors très rapidement là, la suite de la saison, c'est pas la suite de la saison, c'est la saison à Saint-Lizier, les grands rendez-vous, hein, le festival des grands rendez-vous, c'est comme ça qu'il faut dire.
À Saint-Lizier.
Et ça se passe au mois d'août, entre le 11 et le 18, donc il y a des concerts quasiment tous les deux jours, tous les deux ou trois jours. Le premier, c'est vous qui le donnez. Le dimanche 11 août.
Alors pendant 4 ans, je n'ai pas joué dans mon festival parce que j'aimais faire venir de grands artistes. On a fait venir le Quatuor Aquilon, on a fait venir Claire Désert, on a fait venir Pascal Moraguès, le Trio Zadig aussi qui a fait un très très beau concert. Donc je voulais vraiment offrir à mon public couseranais et autres des grands artistes. Et puis j'ai eu une demande unanime là, l'année dernière déjà. Non mais on voudrait bien que tu joues aussi. Donc cette année, je rattrape un peu et je fais 2 concerts. Donc le premier, c'est un pari un peu audacieux pour Saint-Lizier parce que c'est les partitas et sonates de Bach pour violon seul. C'est toujours un peu compliqué de donner ce genre de concert parce qu'ils sont habitués à des pièces de virtuosité, à des pièces romantiques, aux 4 saisons de Vivaldi. Mais je suis très très heureuse de faire ce concert j'ai envie de leur faire découvrir. Et en plus, comme vous dites, dans ce lieu magique.
Ça s'y prête très bien.
Ça s'y prête très bien. Donc c'est à 17h30.
17h30 le 11 août. Le dimanche 11 août.
Voilà.
Donc il y aura le duo Opéra Soul le 13 août, mardi 13 août à 20h. Alors ça, Serge, vous les connaissez parce que c'est Pierre-Yves Binard, le ténor, et Catalina Skinner, qui est son épouse, soprano.
Exactement.
Et Éloise Urbain va les accompagner au piano.
Oui, et qui ont déjà œuvré dans quelques concerts avec les Sacs-Boutiers. Oui.
Donc il y aura Mozart, Offenbach, et puis des mélodies espagnoles et latino-américaines, parce que Catalina Skinner est d'origine colombienne, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Voilà. Après, il y aura un concert récital de piano seul. Gabriella Torma, c'est une Italienne. C'est une
Hongroise.
Hongroise, ah ben vous voyez. Donc comme ça, j'aurais parié pour une Italienne.
Non, non, c'est une pianiste hongroise. Et c'est quelqu'un qui a joué un grand rôle dans ma vie, puisque c'était mon professeur de piano. Donc elle a étudié à Budapest, au conservatoire de Tchaïkovski de Moscou. Elle a remporté de grands concours internationaux, puisque là j'ai la liste: Bartok, Sifra, Debussy à Munich, René-Elisabeth, Schumann, Marguerite Long. Voilà, elle se produit dans le monde entier avec des grands orchestres symphoniques. Maintenant, elle est en France depuis 1983. C'est là que, bon, c'est pas en 83, mais j'ai eu la chance de bénéficier de son enseignement au piano, puisque j'ai fait deux instruments jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, Gabriella, je suis absolument ravie qu'elle vienne. Pour moi, c'est une des meilleures pianistes.
Un très beau programme. Mozart, ouais. Beethoven, Schubert, Ravel. Et puis vous terminerez avec vos musiciens le dimanche 18 août à 17h30, toujours à la cathédrale de Saint-Lizier.
Avec Bach encore.
Avec Bach, le concerto pour violon, alors je ne sais pas lequel c'est.
C'est
concerto.
Deux.
D'accord.
Les deux, la mineure et mi majeure.
Ah, les deux, d'accord.
Les deux.
Bon.
On fait les deux et on fait le tri du diable de Tartini. Et il y aura une petite surprise que je ne peux pas dévoiler, sinon ce ne serait plus une surprise.
Non, surtout pas, surtout pas. Donc voilà, pour Marie Cantagril, vous voyez, l'agenda est bien rempli. Serge, nous avons tout de même deux concerts annoncés cette semaine pour terminer. En premier, celui que donne l'Orchestre du Capitole, ce vendredi 19 avril à 20h à la Halograin. Un concert au fort accent germanique, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque nous y retrouvons un chef allemand, un violoniste allemand et un programme allemand entièrement consacré à Johannes Brahms.
À Johannes Brahms. Mais alors, le chef allemand en question, Frank Behrmann, il faut rappeler qu'il s'agit là d'un des grands habitués de la fosse du théâtre du Capitole. Il a quand même dirigé un Parsifal qui a fait date en 2020, La femme sans ombre récemment qui a été acclamé, un vrai triomphe, Electra fut enchantée, enfin bon, les grands opéras.
Oui, il est adoré des musiciens de l'orchestre.
Ah oui, oui, absolument. C'est vraiment un très, très grand chef.
Ils n'ont pas le compliment facile en plus.
Non, mais exigeant.
Mais quand ils aiment un chef...
Exigeant, et les musiciens aiment qu'ils soient exigeants.
C'est vrai.
Qu'ils les fassent travailler dans le bon sens, donc c'est très bien. Et puis, il y aura un soliste qui sera le violoniste Frank-Peter Zimmermann, un grand violoniste qui était déjà venu.
Oui, je crois qu'il y a 10 ans à peu près.
Il y a 10 ans qu'il n'était pas venu, donc il revient là. C'est vraiment une sonorité magnifique, et généreuse et une belle musicalité. Donc ce sera vraiment un grand moment, j'imagine, avec donc le concerto de Johannes Brahms.
Là, il n'y en a qu'un, on ne peut pas se tromper.
Le seul et unique. Donc l'un des plus célèbres des concertos romantiques, quand même, de tout le répertoire. Alors c'est un concerto que Brahms avait composé pour son ami virtuose Joseph Joachim, avec son aide d'ailleurs, et qui a failli être joué par Sarasate, mais qui a refusé de le jouer parce qu'il trouvait qu'il y avait un solo de hautbois dans le deuxième mouvement qui était beaucoup trop long pour un concert pour
l'ego,
violon.
L'ego des musiciens.
Ah, oui, hein.
Des violonistes surtout. Alors je ne dis pas quand c'est une femme. Alors là.
Ah, il est dur, là.
C'est dur, hein.
Bon, enfin, et la deuxième partie du concert, c'est quand même une œuvre très courante.
Ça, c'est beaucoup plus rare. Hein.
Il s'agit d'une transcription pour orchestre du quatuor numéro 1 pour violon, alto, violoncelle et piano de Brahms, faite par Schönberg, Arnold Schönberg, qui était un fanatique de la musique de Brahms, qui adorait Brahms, et donc qui a voulu absolument en faire une symphonie, puisqu'elle a été surnommée la 5e symphonie de Brahms, cette version, ce qui est incroyable.
Alors lui, c'est l'intrus, Schönberg, parce qu'il est autrichien, mais enfin, on reste quand même avec l'accent germanique très fort.
Oui, absolument, absolument. Donc, alors c'est vraiment une transcription très intelligente. Alors, ce n'est pas du tout dans le style de Schönberg. Hein. Schönberg a été extrêmement fidèle au style d'écriture de Brahms, et donc on entendra une 5e symphonie.
C'est vraiment intéressant, quoi, qu'il y ait cette œuvre qui soit jouée ce soir-là.
Oui, c'est très intéressant.
Et puis, en plus, on aura Frank-Peter Zimmermann en première partie pour l'unique concerto pour violon de Johannes Brahms. Bon, on ne va pas se priver du plaisir de l'écouter. Cet unique concerto pour violon composé par Brahms, cet opus 77, dont voici le troisième mouvement Allegro Giocoso ma non troppo vivace, dans une version avec Frank-Peter Zimmermann. Thank you. Le violon de Frank-Peter Zimmermann dans cet extrait du fameux troisième mouvement Allegro Giocoso, ma non troppo vivace du concerto opus 77 de Brahms. Le grand violoniste allemand va donc le jouer vendredi à la Lohengrin aux côtés de l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Frank Berman lors d'un concert qui commence à 20h. Et puis il y a un autre concert à vous annoncer, au même endroit d'ailleurs, à la Lohengrin, celui de Fazil Say, lundi 22 avril à 20h. Concert du cycle des grands interprètes, dont le pianiste turc est un habitué de longue date. Quel programme propose-t-il lundi, Serge ?
Alors, un programme particulier, puisqu'il est non seulement soliste, hein, grand pianiste, mais il est également surtout peut-être compositeur. Et donc, il y aura trois parties dans ce concert. Tout d'abord, des œuvres de Claude Debussy, avec des extraits du premier livre des Préludes. Prélude, oui. Hein, les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, La fille aux cheveux de lin, enfin, La cathédrale engloutie.
Tous ces titres la danse magnifiquement de Puck, poétiques, et d'ailleurs, pour certains, sont des...
Et puis, il rajoutera le fameux Clair de lune de la suite bergamasque, et ensuite une série d'œuvres de Fazil Say lui-même. Alors je ne garantis pas.
Je vous fais confiance pour prononcer le turc. Je sais que vous êtes un grand spécialiste.
Oui, bien sûr. Karatoprak, ça s'appelle. Et c'est traduit d'ailleurs Black Earth, donc terre noire.
Oui, hein, pourquoi pas.
Balade Ses Nazim, c'est l'opus 12. Et puis Yeni Hayat. C'est
New Life,
New Life, oui, Nouvelle Vie, donc une sonate pour piano, donc l'opus 99. Sachez qu'il a écrit sa première pièce, qui était une sonate pour piano, en 1984, il avait 14 ans. Et puis dans ses œuvres, il introduit très souvent des musiques traditionnelles d'Anatolie, et en particulier, donc on peut dire qu'il prolonge la tradition des Bartok, des Enesco, des Ligeti, en quelque sorte, puisqu'il reprend cette...
Et donc il y a une troisième partie Schubert.
Et la troisième partie, là c'est un grand morceau,
revoilà,
puisque
Schubert.
C'est la dernière sonate de Schubert, la Deutsch 960, en si bémol, qui est une merveille absolue, évidemment,
oui.
Et d'une profondeur, d'une beauté extraordinaire. Donc voilà, trois parties, Debussy, Fazil Say, Franz Schubert.
Voilà, Fazil Say, c'est comme ça qu'il faut prononcer.
Hein. Paraît-il qu'il faut dire Fazil Say.
Moi, je vais écouter Fazil Say, si vous permettez.
On
va l'écouter dans ses œuvres et dans l'interprétation d'une pièce de son cher Debussy, parce que c'est vraiment un grand admirateur de Claude Debussy,
oui.
Le célèbre Clair de lune, troisième extrait de la suite bergamasque. Thank you. Clair de lune, troisième morceau de la suite Bergamasque de Claude Debussy, interprété par Fazil Say. Le grand pianiste et compositeur turc est en concert à la Halle au Grain lundi 22 avril à 20h à l'invitation du cycle des grands interprètes. La billetterie est en ligne à l'adresse www.grandsinterprètes.com. Pour le concert de l'Orchestre National du Capitole dirigé par Frank Berman et avec le violoniste Frank-Peter Zimmermann vendredi 19 avril à 20h, également à la Halle au Grain, vous allez pouvoir entendre le concerto pour violon en ré majeur opus 77 de Brahms et le quatuor en sol mineur du même Brahms, mais orchestré par Arnold Schoenberg. Les places sont à réserver et à acheter sur le site www.onct.toulouse.fr. Et je rappelle enfin le concert du duo Marie Cantagrille et Lois Urbain, vendredi 26 avril à 20h à la salle L'Odyssée de Balma. La violoniste et la pianiste vont jouer des œuvres de Beethoven, Vieux Temps et Sarrasate. Vous trouverez tous les renseignements nécessaires et les contacts pour faire vos réservations à ce concert sur le site de Marie Cantagrille, www.mariecantagrille.fr. Tous mes remerciements à Serge Chosy et à Marie Cantagrille pour leur participation très active à ce numéro. Merci également à Christophe Aubry qui l'a réalisé. Podcast disponible dès aujourd'hui sur le site web de Radio Présence. Et merci à vous tous qui écoutez fidèlement cette émission chaque mardi et mercredi. Excellente semaine musicale à tous. À bientôt.